Bonjour à toutes et à tous. Dans notre monde, il y a, dans notre monde éducatif, il y a beaucoup de fois un paradoxe entre ce qu'on attend de nos enfants et ce qu'ils sont finalement. Bien sûr qu'on ne parle pas ici seulement de parents qui ne donnent pas qui ne se donnent pas à l'éducation de leurs enfants. Ça veut dire que dans l'éducation, il y a plusieurs manières. Il y a tout simplement envoyer les enfants à l'école et faire confiance aux professionnels. Mais on a l'habitude de dire que l'éducation, elle se passe surtout à la maison. Ça veut dire, parce qu'à l'école, on apprend beaucoup de choses, c'est vrai. Mais finalement, le comportement des parents, le lien entre les parents et les enfants, c'est ça qui fait des enfants ce qu'ils doivent être. Aujourd'hui, dans notre moderne, en fait, c'est pas seulement dans notre moderne, toujours il y avait cette idée, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus visible. Il y a ce qui met d'effort, met beaucoup de temps à l'éducation de leurs enfants. Et encore, c'est pas seulement que les enfants ils sont caprices, il faut les sortir. Il faut les sortir, il faut s'occuper d'eux parce qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment il faut s'occuper de nos enfants, voir, être penser à nos enfants. Il y a une phrase dans le livre Ayomion, le premier livre que le Rabbi a publié. Il y a des petites phrases pour chaque jour. Et là-bas, il dit comme ça que de même. On a une obligation de mettre les tefillin tous les jours, on a aussi une obligation de penser à l'éducation de nos enfants une demi-heure par jour. Alors là, il s'agit des gens qui comprennent la valeur de mettre les tefillin tous les jours. Ça, c'est une chose qu'on ne va pas passer une journée sans mettre les tefillin, ça c'est évident. Mais penser à l'éducation de nos enfants, ce n'est pas aussi évident que ça, de chacun il le sait, on s'occupe. Mais penser à nos enfants, à l'éducation de ces enfants, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu difficile à comprendre ce que ça veut dire. Penser, mais en tout cas, comme ça, il dit là-bas, on peut comprendre de là l'importance de s'occuper de nos enfants. Donc, alors, il faut s'occuper de nos enfants. Et pourtant, après tout, pas toujours les enfants, ils sortent de la même manière ou bien ce que les parents, ils attendaient de leurs enfants. Alors, finalement, si les parents ils attendent quelque chose de leurs enfants, les enfants ils sortent un petit peu différemment, et alors, c'est pourquoi, où est le drame? Alors, parfois il y a le drame, parfois c'est effectivement, si les enfants ils ont choisi un autre schéma, c'est pas grave. Et ça dépend de ce qu'ils ont choisi comme schéma. Mais ce qui est intéressant, que ce qu'on a vu dans l'histoire, c'est que les parents qui s'investissent à l'éducation de leurs enfants, très souvent, les enfants, ils suivaient le chemin de leurs parents. Encore une fois, ce n'est pas forcément le travail qu'ils vont travailler. Si les parents, ils voulaient qu'ils soient avocats et finalement, ils ont été médecins ou d'autres choses, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais il y a des valeurs familiales ou bien des valeurs générales, des valeurs humanitaires. Je ne vais pas parler de la politique, ça, bien sûr que ça change, surtout que okay, c'est pas un sujet à développer maintenant, mais très souvent donc les enfants ils changent par rapport à leurs enfants, à leurs parents. Alors encore une fois, si les parents s'investissent pas à l'éducation de leurs enfants, alors ça c'est pas étonnant que les enfants ne suivent pas, parce que de toute façon les parents ils ont, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien donné, mais en tout cas, ils n'ont pas investi. Donc, les enfants, ils cherchent, ils trouvent ce qu'ils trouvent et ils suivent le chemin qu'ils veulent choisir. Le drame, c'est que lorsque... quel est le chemin? Est-ce qu'on cherche un chemin? On cherche ce qui est bon ou on ramasse ce qui traîne? Alors, très souvent, si on n'a pas l'éducation, et les enfants, ça leur manque un guide, des guides. Alors à ce moment-là, la rue a beaucoup de choses à nous proposer. Et à ce moment-là, les enfants, ils tombent dans parfois des choses qui ne sont pas bénéfiques, et à ce moment-là, ça peut être un drame. Mais d'une façon beaucoup plus large, même lorsque les parents ils investissent dans l'éducation de leurs enfants, parfois il y a quand même des surprises que les enfants ils changent. Parfois ils changent carrément. Et parfois ils tombent. Oui, les enfants, les parents, ils ont mis beaucoup à l'éducation de leurs enfants. Et parfois, finalement, l'enfant, il a pris ce qui traîne, si on peut exprimer comme ça. Donc, il n'a pas pris ce qu'il faut faire. Il a pris ce qui est facile à faire et facile à faire pour tout de suite. Et donc, il y a des drames. Mais c'est un sujet trop large pour dire ça en quelques mots. Mais c'est vrai aussi dans... alors, ce qu'on a dit comme ça, que si les parents, ils investissent pas dans l'éducation de leurs enfants, alors c'est très probable que les enfants ne suivent pas les schémas des parents. Même si que les parents, ils ont un modèle de vie à suivre, puisqu'ils n'ont pas investi dans l'éducation de leurs enfants, donc les enfants facilement ils vont quitter le schéma. Et si les parents ils n'ont pas un schéma de vie, c'est comme ça ils vivent avec ce qu'il y a, alors c'est sûr que les enfants ils vont choisir, peut-être ils vont choisir le même schéma, de faire exactement comme leurs parents. Et très souvent on dit que l'éducation des enfants c'est surtout l'exemple. Si les parents c'est des exemples à suivre, alors très souvent les enfants ils vont suivre cet exemple. Donc dans l'éducation il faut beaucoup investir dans soi, celui qui éduque, qu'il soit quelqu'un exemplaire. Et bien sûr le temps, ça ne suffit pas d'être quelqu'un d'exemplaire, mais parfois il y a une distance entre les parents et les enfants, parce que les parents ils comprennent des choses et les enfants ils comprennent pas la valeur de leurs parents. Donc l'éducation c'est un investissement, et parfois c'est un travail dur, mais c'est comme dans toutes les notions d'investissement, il faut investir et il y a des résultats. Mais comme on a dit tout à l'heure, parfois il arrive que les parents ils sont des personnes de valeur et ils ont beaucoup investi dans leurs enfants, et finalement les enfants ils ont, pour une raison ou pour une autre, parfois il arrive que les parents ils ont beaucoup investi mais ils n'ont pas compris ce que leurs enfants veulent, il y a une distance, ou bien par d'autres raisons parfois l'éducation ne marche pas. On ne peut pas dire que l'éducation ne marche pas du tout, finalement ça va. Si les parents ils sont vraiment investis dans leurs enfants, les enfants ils vont finalement retourner, en tout cas, dans la valeur, ou bien d'une manière ou d'une autre manière, ils vont revenir vers les valeurs de leurs parents. Sauf, alors encore, c'est un sujet difficile, on ne peut pas donner une règle. La règle est claire et nette, mais en tout cas, c'est comme ça que normalement ça marche. Alors, c'est vrai aussi pour toute éducation, et aussi dans l'éducation juive. Dans l'éducation juive classique, alors très souvent, on a vu que les parents, c'est parmi les devoirs religieux, comme humanitaire, on a des enfants, il faut s'occuper d'eux, mais aussi un devoir religieux de s'occuper de nos enfants, devoir de veiller que les enfants ils suivent le bon chemin. Qu'est-ce que c'est le bon chemin? C'est notre question, mais il faut qu'ils suivent le bon chemin. Et très souvent, dans le monde classique, ancien, normalement ça marchait, les enfants ils ont suivi le chemin de leurs parents. Aujourd'hui que le monde moderne il a beaucoup de choses à nous proposer, donc parfois il y a des échecs dans ce domaine, et on a vu des périodes où ça n'a pas toujours marché, il y avait les parents, il y avait les enfants qui ont carrément tourné dos à leurs parents, surtout dans les périodes très difficiles dans l'histoire juive. Mais là aussi il y a des histoires où les parents qui ont vraiment investi dans l'éducation de leurs enfants, soit ils ont pu récupérer ces enfants, soit les enfants eux-mêmes ils ont retourné, ils ont compris la valeur finalement de ce que leurs parents ils ont à proposer et plus que ce que la rue leur propose. Mais dans la communauté juive, il y a encore quelque chose beaucoup plus important que peut faire éloigner les enfants de leurs parents. Alors éloigner, ce n'est pas forcément que le père est religieux et les enfants ne sont pas, ou la mère. C'est, dans le judaïsme même, il y a beaucoup de schémas, énormément de schémas. Ça veut dire, justement pourquoi? Parce que dans le judaïsme, il y a deux bases qui sont posées. D'une part, la base des bases, c'est obéir. Façon, ce qu'on nous dit, il y a des règles à ne pas franchir. Ça veut dire, c'est comme ça. On sait que le judaïsme commençait par un Asev et Nishma. Faites et comprenez après. Donc ça veut dire, la première chose, c'est faire, Asev, faire. C'est comme ça que les peuples juifs, avant de recevoir la Torah, ils ont dit, au pied de Mont Sinaï, on va faire, on va écouter. Donc c'est devenu une base. Et cette base, elle est vraie partout. L'éducation des enfants, on dit aux enfants, tu dois obéir. Après, quand tu vas être grand, tu vas essayer de comprendre. Il y a d'autres termes comme ça. Et dans le judaïsme, on est basé sur cette idée. Fais, et ensuite, comprends. Mais après le fait de faire, il faut vraiment comprendre. Et lorsqu'on nous dit de comprendre, on nous dit de comprendre en plus large. Ça veut dire qu'il faut vraiment utiliser notre tête et essayer vraiment de comprendre. Et s'il y a des choses que je comprends d'une certaine manière, il ne faut pas, laisser tomber. Il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'on trouve dans le Talmud, et ensuite, bien sûr, que dans toute la vie juive, de génération après génération, des différences énormes entre l'un et l'autre, puisqu'on s'agit de la compréhension. Et donc, dans la compréhension, on comprend les choses différemment. Et c'est possible que hier, je comprenais d'une manière, et demain, je comprends d'une autre manière. Pas seulement que c'est possible, c'est clair que quelqu'un qui étudie, il avance, il change, on peut pas rester, on n'est pas comme, il y avait une expression chassidique qui dit qu'il y a des gens qui sont comme des photos. La photo, lorsqu'on regarde la même photo, elle montre le même visage. Si hier, dans la photo, on a vu des gens qui sourient, demain aussi, ils vont continuer à sourire, et après demain aussi, ils vont continuer à sourire, parce que c'est pas quelque chose de vivant. Mais quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui change. Peut-être hier, c'est comme ci, demain, c'est comme ça. Mais c'est que ça quelque chose de qui change. Alors, et c'est ça quelque chose qui est vivant. Alors, à partir de là, il peut y avoir aussi des drames. Si on compte sur notre intelligence, combien de personnes se trompent finalement. Alors, on a un drame ici. D'une part, on nous dit qu'il faut faire. Ensuite, on dit non, il faut, c'est vrai qu'il faut faire de toute façon, mais il faut comprendre. Alors, quand on nous pose au bout de notre compréhension, il peut arriver qu'on comprend mal les choses. Chacun peut se tromper dans la vie, ça c'est la base de la compréhension. Et combien de choses les gens ils ont compris d'une certaine manière, ensuite, des années après, on a mis tout en question dans tous les domaines de la vie, dans la science et tout, c'est comme ça. La compréhension humaine est très limitée et il n'y a pas des personnes qui sont échappées à cette idée. C'est possible que j'ai compris certaines choses toute ma vie et finalement, à la fin, j'ai compris de quelqu'un qui est beaucoup moins important que moi, beaucoup moins intelligent que moi, et à partir de lui, j'ai tout mis en question. Ça peut arriver des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de visions dans la vie, il y a des choses qui m'échappaient, je ne savais pas certaines choses, mais en tout cas, ça c'est clair, que la compréhension c'est quelque chose qui développe la personne, et lorsqu'on développe, on ne reste pas dans le même endroit, il peut y avoir des échecs. Parfois les échecs sont petits, parfois les échecs sont grands parce que je comprends des choses, je développe des idéologies qui parfois être une idéologie mauvaise, une idéologie qui détruit. Mais à ce moment, je pensais que je marche sur le bon chemin. Donc c'est ça le drame, c'est ça le risque qu'il y a à partir de la compréhension, et pourtant la Torah nous pousse à réfléchir. Ça veut dire qu'il y a des risques, mais comme dans chaque domaine, il y a des risques, et pourtant, on prend les risques. Alors là aussi, donc, si on résume un petit peu ce qu'on vient de dire, d'une part, le judaïsme nous parle de faire, de toute façon, si on comprend ou on ne comprend pas, il faut le faire. Mais d'une autre part, le judaïsme nous parle de comprendre. À partir de là, c'est ça qui nous fait changer les choses. Alors à partir de là, si on revient aux parents, aux enfants, c'est vrai que dans la vie traditionnelle de l'époque, dans toutes les communautés juives, d'une façon générale, partout, alors on suivait les pas de nos pères, ne pas réfléchir, mais c'était cadré quand même. Mais quand même, il arrive que puisqu'on nous demande de développer, alors d'une part, on a reçu de bonnes éducations, très bonnes éducations, et pourtant, il arrive que les enfants, ils ont allé un petit peu dans d'autres schémas, parfois dans le judaïsme même. Il y a beaucoup de schémas, on a allé vers d'autres schémas, et les parents ne sont pas très contents, mais c'est comme ça la vie. Et je ne parle pas de quitter carrément le schéma parce qu'on a compris les choses mal, mais c'est ça le risque de la compréhension. Mais seulement pour dire, pour terminer cette partie, il y a une phrase qui est marquée, le roi Shlomo, il dit « Chanoch l'anar al pidarko, gam ki yazkin lo yasur mimena ». Ça veut dire qu'il faut éduquer un enfant sur son schéma, même lorsqu'il va vieillir, il ne va pas quitter ce schéma. Alors, cette phrase est opposée, en fait, cette phrase elle est paradoxale depuis le début jusqu'à la fin. Il dit qu'il faut éduquer l'enfant par son schéma, ça veut dire que l'enfant on éduque d'une certaine manière, on n'éduque pas un enfant comme un adulte. Donc un enfant, il est un enfant quand même, il y a des choses qu'il n'arrive pas à comprendre, donc on ne peut pas éduquer un enfant comme un adulte. Si quelqu'un il éduque un enfant et le considère comme un adulte, ça peut tourner vers l'échec. Parce qu'il faut donner à l'enfant ce qu'il est capable de recevoir maintenant. Et les parents qui demandent trop à leurs enfants, si on traduit ça comme ça, alors à ce moment-là, ça peut avoir des drames. Ça peut donner des drames. Donc il faut éduquer un enfant à sa manière, à son schéma. On sait que dans l'éducation, on donne une importance à quelque chose qui n'est pas important pour justement attirer les enfants vers le bon chemin. Mais c'est ça le chemin. Il faut... comment dire? Il y a beaucoup d'exemples. L'exemple le plus classique, on veut qu'un enfant il étudie, alors on lui donne une sucette. Alors pour lui, ce qui est important, c'est la sucette. Mais grâce à ça, il étudie. Mais aujourd'hui, pour le moment, c'est comme ça qu'il faut passer. Mais une fois qu'il va grandir, il va avoir goût dans l'étude, donc il n'aura plus besoin de ses sucettes. Les sucettes, chacun a ses sucettes, c'est pas toujours vrai. Nous aussi, on a besoin d'être les adultes, d'être encouragés par certaines choses. Donc, alors on fait des choses pour entraîner dans d'autres domaines. Et à chacun sa carotte pour encourager d'aller, de faire certaines choses. Mais en tout cas, là, il est marqué qu'il faut éduquer un enfant à son schéma. Donc, ça veut dire selon le schéma de maintenant. Il est petit, donc il faut l'éduquer selon le schéma, selon ses capacités d'aujourd'hui. Et ensuite, on dit que même lorsqu'il va grandir, il ne va pas tourner de ce schéma. Comment ça? Quand il va grandir, quand il va vieillir, il va développer sa propre personnalité, sa propre pensée, sa propre réflexion, sa propre idéologie. Alors comment on peut dire qu'il va suivre l'éducation? Alors le sujet est un petit peu difficile, mais l'idée générale c'est quand même la base d'éducation reste toujours. Même lorsqu'il va développer, il va développer par rapport à ce que... Donc, le noyau de l'éducation reste toujours. Tout le reste, c'est comme un bâtiment qui était construit sur une base, mais la base, elle reste la même. Alors là, ici, la base de l'éducation reste la même, elle ne bouge pas. Après, on va construire des étages sur cette base. Et là aussi, même lorsque s'il y a une bonne éducation, alors même si on va aller très très loin, on va construire beaucoup d'étages, mais c'est ça l'idée d'aller très loin. Et même si on va aller très loin dans l'éducation, on va avoir d'autres visions, et d'autres réflexions, et d'autres idéologies. Mais l'idéologie première, si l'éducation est bonne, l'idéologie première, elle va rester, en tout cas, c'est pas forcément que l'enfant il va rester avec ça, mais ça va rester gravé en lui. Il y a encore des choses à dire par rapport à ça, mais on va continuer plus loin. Cette semaine, on va lire et on va terminer le quatrième livre de la Torah, le Chumash Bamidbar, donc un des cinq Chumash, ça veut dire cinq, un des cinq livres, le quatrième des cinq livres qui s'appelle Bamidbar, et Bamidbar ça veut dire dans le désert, et parfois on l'appelle le nombre, parce qu'on parle des chiffres, des comptes. Et dans cette paracha, en vérité, la Torah se termine elle termine d'une façon générale, parce que le cinquième livre, c'est Moshe qui parle, jusque là, c'est Moshe qui transmet le mot d'Hachem. Le cinquième livre, c'est avant la mort de Moshe, il y a certaines répétitions, il y a beaucoup de répétitions, mais Moshe, il les présente d'une autre manière. Quand Moshe, il les reçoit, quand Moshe, il les sent. Et donc c'est pour ça qu'on fait une différence entre les quatre premiers livres et le cinquième livre, qu'on considère que c'est plus Moshe qu'Hachem, et pourtant c'est le droit d'Hachem. Mais c'est la vision de l'homme. Comment Moshe, en tant qu'homme, il a entendu. Il y a des choses que très souvent qu'on répète. Alors il y a la façon comment on a entendu, et il y a la façon comment on répète. On va parler de ça peut-être une autre fois, mais en tout cas dans notre paracha, on termine le livre, le quatrième livre de la Torah, mais puisque cette semaine on lit deux parashiot, comme on a vu souvent, qu'on est obligé de coller deux parashiot, parce qu'il nous manque de Shabbat disponible pour lire, donc ce Shabbat on va lire les deux parashiot, Matot et Maaseh. Alors chaque parasha elle a sa personnalité, mais le Rabbi de Lubavitch il se base sur les noms. Normalement le nom de la parasha était choisi par le premier mot dans la paracha. Ça veut dire, si on a un mot qu'on peut utiliser, il y a des mots qui se répètent, donc on ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel. Si on va dire, il a dit, c'est des mots qui se répètent dans la Torah. Mais on choisit le premier mot qu'il a quelque chose d'exceptionnel, donc c'est le nom de la paracha. Mais selon la chassidoute, ou même avant la chassidoute, le nom de la paracha, même si elle n'a pas un rapport officiel avec la paracha, mais quand même il y a un rapport. Il y a un rapport qui, le nom montre un petit peu le sujet de la paracha. C'est pour ça qu'on se base souvent sur le nom. Donc le nom de premier paracha, c'est Matot. Le nom de deuxième paracha, c'est Maaseh. Matot, tout simplement parce que dans cette paracha, il a marqué que Moshe, il a parlé au chef de tribu. Et la tribu ici, il s'appelle Matot. Tribu, il y avait 12 tribus. Et pour dire tribu, il y a deux manières de dire. On peut dire Shevet, on peut dire Maté. Ici, on l'appelle Maté. La différence entre Shevet et Maté, c'est que Maté, c'est un bâton. Shevet, c'est un bâton qui sort de l'arbre, oui, mais il a encore une vitalité. En tout cas, ici on appelle Maté. Maté, ça veut dire bâton. Alors là, on ne va pas rentrer dans le sujet, quel rapport entre les tribus et les bâtons, mais comme ça, ça s'appelle bâton. Mais l'idée des bâtons, c'est quelque chose, c'est un bâton qui est déjà sec. Il a plus de vitalité, on ne peut plus faire avec lui, en tout cas on ne peut pas le planter, il ne va pas grandir parce qu'il est sec. Donc il a aussi une force, on ne peut plus le tordre parce qu'il a reçu cette force, cette dureté qu'il ne bouge pas. Donc alors à ce moment-là on va retenir dans le mot Matot la notion de quelque chose qui est dur et quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qu'on ne peut pas le tordre. ce qui nous concerne, c'est que nous, cette qualité qu'on a parlé d'ailleurs avant, quelqu'un, quand il ne bouge pas, il reste ce qu'il est. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer des choses qui vont passer, mais lui, il ne reste pas. Et pardon, lui, il ne bouge pas. Il a reçu son éducation, il a reçu, il a son identité, et même si tout le monde tourne 1000 fois, lui, il reste ce qu'il est. Ça, c'est la signification du mot « matot ». La signification du mot « masé », alors ça, c'est plus simple. Et dans la deuxième paracha, au début de cette paracha, puisqu'on a dit qu'on est à la fin de la vie de Moshe, à la fin de la Torah, pratiquement, sauf que le cinquième, c'est une notion de répétition, et que c'était dit à la fin de la vie de Moshe. Donc on est à la fin, et Moshe, et puisqu'ils sont arrivés, ils ont fait tout leur chemin depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à devant Jéricho. Donc, alors Moshe, il compte tous les voyages, 42 voyages qu'ils ont fait. Donc, il compte, ils ont quitté tel endroit, ils sont arrivés à tel endroit, ils ont quitté tel endroit, ils sont arrivés à tel endroit. Et la Torah, comme ça, elle nomme les 42 étapes qu'ils ont fait depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à là. Alors, si on prend la signification des mots massé, ça veut dire voyager. Quand on voyage, alors on change. Un endroit, on a cette habitude, dans d'autres endroits, il y a d'autres habitudes. Alors, si on prend ces deux significations que je viens de dire, ces deux significations qui représentent cette idée qu'on a dit tout à l'heure, d'une part, cette dureté qu'on a à l'intérieur de nous, une fois, après l'éducation qu'on a reçue, après qu'on a construit notre identité, donc la personne, il est censé ne pas bouger, il est ce qu'il est. Elle n'est pas bougée relativement, ça veut dire que normalement on sait ce qu'on va, pas chaque vent qui va souffler va nous bouger, on est adulte, on sait ce qu'on veut. Mais d'une autre part, la deuxième notion représente une idée de bouger, on tourne, on change l'endroit, on sait que chaque endroit il a son identité, ses natures, ses habitudes. Et donc, ces deux notions qui sont opposées, être quelqu'un qui ne bouge pas, qui reste dur à sa position, et être quelqu'un qui bouge constamment, c'est deux choses qui sont opposées. Et justement, c'est ça le paradoxe qu'on a en nous. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on est dans cette période de deuil, dans le judaïsme, la période qu'on compte, c'est la période où on mentionne, on vit avec la destruction de Jérusalem et des tombes. C'est les 3 semaines. Ensuite, cette semaine, la semaine prochaine, ça va être le début du mois de Av, où les tombes ont été détruites et les peuples juifs, ils ont été éparpillés dans le monde avec tous les massacres, tous les problèmes et toutes sortes de problèmes qu'on avait depuis à l'heure jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois, ça renouvelle d'une autre manière. Alors, quelque part, ces deux parachutes nous préparent pour cette période. D'une part, on nous demande, on nous dit, on nous annonce qu'il y aura des changements. On va y amasser, on va voyager. On voyage. Et pourtant, on reste dur. On reste ce qu'on est. Donc ça, c'est une des significations de ces deux parachutes qui vont ensemble. Mais le rabbi, il va plus loin. Il nous dit le contraire. Le contraire, ça veut dire que si on a une bonne éducation, alors d'une part, on garde cette dureté, cette stabilité, on est ce qu'on est. Et c'est pas seulement que le monde autour de nous ne nous dérange pas, ne nous change pas, moi je reste en opposition, mais le contraire. Le monde autour de nous, si on est fort, si on est stable, alors non seulement que le monde autour de nous, il ne doit pas être opposition à nous, mais le contraire, on voit dans les différentes choses comment c'est complémentaire. Donc alors, il y a des différences dans le monde, il y a des choses dans le monde, il y a des changements dans le monde, Mais si on a une bonne base, alors à ce moment-là, toutes les différences s'enchaînent dans la base. Donc ça, c'est une idée qu'il faut encore développer, mais l'idée, c'est comme ça que les différences, ils sont opposés à la base. C'est lorsque la base, elle est pas, on n'a pas, la base, elle est pas très forte. Mais lorsque la base, elle est très elle est forte, alors comme c'est quelqu'un qui... On va dire comme ça, on va donner un exemple simple de notre monde autour de nous. Il y a quelqu'un qui n'est pas stable, alors chaque petite chose va le déstabiliser. Donc alors, il va voir une chose, il va adopter cette habitude qui va le déstabiliser, il va voir d'autres choses, il va être déstabilisé parce que dans cette région, dans cette période, dans cet environnement, on fait comme ça. Donc alors il va changer. Par contre, la personne qui est stable, alors même si qu'il passe par les événements différents, et parfois il va choisir ça je vais faire, ça je vais pas faire, mais il va aussi prendre des habitudes, des endroits vers lui. Ça veut dire, il va dire, ah, ça va bien avec cette notion. Alors d'une part, il va être stable, à ne pas bouger, c'est pas n'importe quel vent, et pas tout ce qui traîne dans la rue va le changer. Mais d'une autre part, puisqu'on est dans un monde où, ça c'est plutôt la vision juive, on est dans un monde, dans le monde où Dieu il a créé. Donc Dieu il a créé les différences, Dieu il a créé même les choses négatives, il faut choisir, savoir, utiliser les négatives pour le positif. Alors à ce moment-là, si je suis stable, non seulement que je ne vais pas être touché, mais le contraire, je veux utiliser les choses négative et je vais le rendre positif. Donc alors ça c'est un petit peu la vision générale et on peut rajouter beaucoup de choses par rapport à ça, mais ça c'est la base de cette réflexion. Et ça c'est l'idée, quelque part le but de cet exil qu'on était éparpillé dans le monde, et ça c'est le but de chaque personne qui envoie son fils un petit peu loin. Et il a peur pour lui. Qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, s'il va tomber, c'est regrettable. Mais s'il va devenir encore plus fort, parce que cette fois-ci, c'est pas seulement qu'il a suivi son père et sa mère, l'éducation qu'il a reçue. Lui-même, il s'est développé dedans. Alors, à ce moment-là, c'est pas seulement qu'il est la suite de quelque chose. Le but, c'est qu'il développe, comme on dit parfois, qu'il faut jeter l'enfant dans l'eau pour qu'il puisse savoir nager seul. Là aussi, dans notre monde, il faut savoir développer les petites choses pour pouvoir suivre les grandes idées. Alors encore, si on a une bonne éducation, le paradoxe n'est pas un paradoxe. Ça veut dire, d'une part, on est différent, mais d'une autre part, on suit le même schéma, on soyait différent. En soyant différent. Donc ça, c'est l'idée générale, et ça, c'est un petit peu le but de toutes les épreuves. C'est pas pour que les gens tombent dans les épreuves, pour qu'ils montent encore plus loin. Et ça, c'est le but messianique aussi, l'idée de Mashiach messianique, qu'il va venir après toutes ces épreuves, qu'à ce moment-là, on va pouvoir faire monter, surmonter les épreuves, on va pouvoir montrer que toutes ces épreuves, ça fait partie de nos voyages, nos grands voyages. Et encore, on revient à cette idée de notre paracha. Dans la paracha, on parle de 42 étapes. Parmi les étapes, il y a des moments joyeux. Et parmi les étapes, il y avait des moments moins joyeux, même un moment où les gens ils ont tombé, le peuple a tombé. Et pourtant, on les considère tous comme un long voyage. Parce que même quand on tombe, c'est pour surmonter, pour remonter. En tout cas, merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.